Bonsoir, ce soir je vous propose un alter regard sur les 30 glorieuses. On verra si elles étaient si glorieuses que ça. Donc on dit souvent que c'était mieux avant, n'est-ce pas, tu te souviens, c'était bien. Mais est-ce que l'on n'idéalise pas avant? Et cet avant, c'est souvent ce que l'on appelle donc les 30 glorieuses. La caractéristique de cette période, c'est l'expansion économique. De 1950 à 1973, la croissance annuelle des 12 pays qui adhéreront à la communauté européenne a été en moyenne de 4,6%. Un dynamisme qui fait aujourd'hui rêver. L'exode rural est important, les villes s'étendent et la consommation se développe. Le rattrapage technologique vis-à-vis des États-Unis, notamment le développement de la télévision, change les habitudes de vie. Le rêve américain devient réalité. Les ménagères achètent des machines à laver le linge, la vaisselle. Les Français s'enrichissent. Le chômage tombe en Europe à 2,4% de la population active. Et les premiers lotissements de maisons individuelles préfabriquées se multiplient. Donc, une époque bénie qui sera brutalement interrompue par le premier choc pétrolier de 1973. Avec mon invité, nous allons voir si cette époque était vraiment bénie et pour qui, car il y a eu, comme toujours, des gagnants et des perdants. Aujourd'hui, le récit est-il enjolivé? Donc, mon invité, Vincent Martigny, vous avez coordonné un livre sur ce sujet. Le livre interroge la nostalgie des Trente Glorieuses, sans doute idéalisée, une période de prospérité, d'harmonie sociale, mais les défis actuels diffèrent de ceux d'hier. Donc, Vincent, merci d'avoir accepté de participer à mon émission. Vous pouvez vous présenter?
Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Je m'appelle Vincent Martigny, je suis professeur à l'Université de Côte d'Azur, à Nice, en sciences politiques. Et donc, je coordonne ce livre aux éditions du Seuil.
Voilà. Alors, tout d'abord, comment on conçoit, on met en œuvre un livre collectif? Parce que c'est sacrément compliqué. Je sais.
C'est une très bonne question, parce que, surtout, ce livre collectif est un livre collectif d'un genre un peu particulier, puisque c'est un livre presque écrit à 14 mains. Nous sommes 14. Certains livres collectifs, bon, on laisse une pleine liberté aux auteurs, mais ce n'était pas exactement ça que j'avais dans la tête, puisque je savais ce que je voulais. Au départ, ce livre, c'est mon idée, et mon idée, c'était d'essayer de réfléchir à l'histoire et au rôle qu'on donne à l'histoire pour parler du présent, puisque, vous l'aurez compris, ce livre n'est pas tant un livre sur les 30 glorieuses qu'un livre sur aujourd'hui. Il a une dimension manifeste pour refuser la nostalgie dans laquelle on nous enferme. Donc, travailler était la manière suivante. Il fallait que je trouve des gens qui d'abord acceptent ce projet et cette perspective. Et donc, j'ai choisi tout simplement les gens que j'admirais, parfois que j'aimais dans la vie, parce que je les connaissais. Et je suis allé les voir, les uns et les autres, pour leur dire, eh bien, écoutez, voilà mon idée, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on a tourné. Le cœur de l'équipe s'est constitué très vite. Mais après, on est allé vite parce qu'on a mis à peu près une petite année pour faire ce projet. Et donc, la façon dont ça a fonctionné, c'est qu'une fois qu'on s'était mis d'accord sur les thématiques, eh bien, ils ont fait des versions. J'ai beaucoup réécrit avec eux pour leur expliquer ce que je voulais. On a fait une réunion presque tous ensemble pour se dire qu'est-ce qu'on veut dire sur ce projet. Donc, on est vraiment sur un véritable collectif ici.
Oui, pour qu'il y ait une harmonie quand même dans tous les textes aussi, un fil conducteur, une harmonie.
Absolument. L'idée était justement que le lecteur ne soit pas trop déboussolé, comme ça peut être le cas parfois dans certains livres collectifs, et qu'il puisse avoir le sentiment qu'il lisait non pas une même plume, mais en tout cas plusieurs variations autour du même thème.
Alors, j'ai essayé de faire des regroupements, vous me direz s'ils sont judicieux, mais pour commencer, je vous propose de revenir sur ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. C'était le livre de Jean Fourassier, d'ailleurs. Donc, quelle période ça recouvre?
Alors, la période des 30 Glorieuses, et cette expression a été inventée, comme vous l'avez dit, par Jean Fourastier, qui était un haut commissaire au plan, et dans un livre qui paraît justement à la fin des 30 Glorieuses, en 1979, et ce livre s'appelle « Les 30 Glorieuses ou la Révolution invisible ». Et donc, il couvre une période qui va de 1949 à 1979, c'est-à-dire, grosso modo, le début de la reconstruction réelle, enfin, la fin de la guerre, on va dire, la fin des années 40, jusqu'au deuxième choc pétrolier, qui vient vraiment interrompre cette période de prospérité. Et ces 30 glorieuses, elles sont entendues comme des périodes de prospérité tout à fait extraordinaires. Et Jean Fourastier utilise une allégorie dans son livre, dans son introduction, qui est merveilleuse, que j'ai redécouvert par cette occasion, où il dit, imaginez deux villages. Le premier est un village qui vit comme au 19e siècle, un village dans lequel les gens meurent jeunes, dans lequel le travail est dur, un village essentiellement agricole, un village dans lequel les déplacements sont peu nombreux, un village qui vit en autarcie. Et de l'autre, imaginez un autre village qui est moderne, dans lequel les hommes et les femmes travaillent, la santé est de meilleure qualité, les biens de consommation sont plus nombreux, la croissance est importante, il y a des voitures. Et à la fin, il dit, ces deux villages, dont il a donné des noms imaginaires, ne forment qu'un seul village. C'est le village où il est né, qui s'appelle Douel, dans le Lot. Et il raconte que c'est le même village, l'un en 1945 et l'autre en 1979.
Oui, mais c'est quand même... Alors, c'est une forte période d'expansion économique, mais avec une forte inflation. Et cette inflation, en fait, on l'a subie, entre guillemets, plus tard, parce que sur le coup de l'inflation, les salaires suivent. Enfin, tout est dans le même engrenage. Mais ensuite, il y a une période difficile.
Oui, il y a la période qu'on a appelée ensuite, certains ont appelé les 30 piteuses, c'est-à-dire ces 30 années, justement, où on a subi un décrochage sur le plan économique, mais avec un modèle qui fonctionnait sur l'idée du développement économique. Vous avez parlé de l'inflation, on pourrait parler de la croissance, évidemment, qui était le grand sujet, une croissance parfois presque à deux chiffres, où on pouvait imaginer là une économie qui explosait. Sauf que lorsqu'on a voulu garder le même système, un système où il n'y avait quasiment pas de chômage, où il y avait une croissance très grande, où les salaires étaient indexés, à une augmentation des prix qui était elle-même très forte, eh bien ça fonctionnait. Lorsque la croissance s'est stoppée à cause du ralentissement économique lié au choc pétrolier, eh bien le modèle s'est enrayé. Et d'une certaine manière, l'origine de ce livre, pour moi, c'est une réflexion sur le fait que moi je suis né à la fin des années 70, et depuis que je suis né, j'entends dire que nous sommes en crise. Et je me suis toujours dit, mais en crise par rapport à quoi? Évidemment, j'ai compris que notre maître étalon du bonheur humain, de la prospérité, était les 30 Glorieuses. Et donc je me suis posé une deuxième question, mais depuis longtemps, puis là je le fais dans ce livre, c'est est-ce que je souhaiterais revenir à cette période? Est-ce qu'il est même souhaitable et sain d'imaginer que nous pourrions revenir sur le plan économique, culturel, anthropologique, on en dirait un mot dans un instant, dans cette période des 30 Glorieuses? Et la réponse, évidemment, était non. On ne tiendrait pas 10 minutes en 1955, ou peut-être pas 15 en tout cas.
Oui, alors on dit qu'elle a permis d'affranchir les hommes de la faim, des épidémies, du travail servile, de la mort précoce, mais est-ce que c'est ce qu'on croyait, ce qu'on croit maintenant, ou est-ce que réellement, sur cet aspect un peu humain, il y a réellement eu, pendant cette période-là, une évolution intéressante, je le dis bien volontairement.
Il est une évidence que les 30 Glorieuses ont considéré une des plus grandes bulles de prospérité dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que nous n'avons pas, en histoire économique, de points comparables dans lequel une telle partie de la population a profité d'une telle expansion de son modèle de vie, de sa qualité de vie, hormis peut-être aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant et qu'on essaie de dire, évidemment, c'est que même si les 30 Glorieuses ont été en 30 ans une explosion hyper rapide des progrès humains et que ces progrès ont profité à une très grande partie de la population. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle engendre une certaine nostalgie. C'est pas que pour des mauvaises raisons, c'est parce que beaucoup de gens peuvent dire, mais moi je me souviens par rapport à mes grands-parents lorsqu'ils ont un certain âge, comment on s'est mis à vivre. On est entré dans une forme de modernité. Sauf que il s'est passé beaucoup de choses depuis la fin des Trente Glorieuses et beaucoup de choses heureusement favorables, positives. Nous vivons encore mieux que pendant les Trente Glorieuses et ça on a un peu tendance à l'oublier.
Alors, vous dites qu'il y a une vision de droite et une vision de gauche sur cette période. Donc, vous pouvez nous expliquer ?
Oui, je suis professeur de sciences politiques, donc ce qui m'intéresse, c'est aussi la vie politique. Et à ce titre-là, je me suis rendu compte que lorsque j'entendais les discours des uns et des autres, eh bien, il y avait des discours de gauche et des discours de droite qui étaient de nature différente, mais qui finalement communiaient chacun à leur manière dans la nostalgie des Trente Glorieuses. Alors, pour la droite, qu'est-ce que c'est ? La droite, c'est la nostalgie d'une société où chacun est à sa place, le patron au-dessus de l'employé, l'homme au-dessus de la femme, ou en tout cas le père comme pater familias, qui a en tout cas autorité sur sa femme et ses enfants, le français sur l'étranger, et que ces formes hiérarchiques, elles structurent profondément la société. Et donc ça, c'est ce qu'on appelait à l'époque les valeurs. Vous savez, Georges Pompidou parlait des valeurs. Bon, des valeurs pouvaient être traditionnelles, pas toujours catholiques, mais en tout cas quand même autour de valeurs judéo-chrétiennes qui structuraient la société. Il y avait un autre élément très important qui était au cœur de tout, qui était le travail. Si tu travailles dur, eh bien, tu obtiendras la récompense de tes efforts. Ça, c'est la mythologie de la droite des Trente Glorieuses. En tout cas, cette espèce de période rêvée pour eux, pour les gens de droite, les citoyens qui votent pour cette famille, ces familles politiques, d'une société comme ça, harmonieuse, finalement, où les rapports hiérarchiques étaient intériorisés et fonctionnaient bien. Pour la gauche et les gens de gauche, c'est une autre mythologie qui se caractérise plutôt autour de mai 68. C'est-à-dire, il y a plutôt la deuxième partie des Trente Glorieuses, c'est la période 1965, 6, 7, 8, jusqu'à la fin des années 70. C'est-à-dire cette décennie dans laquelle on a remis en cause l'ordre établi, dans laquelle la contestation du capitalisme a été la plus élevée, dans laquelle les mouvements sociaux, les syndicats étaient les plus puissants et pouvaient, dans une grande convergence des luttes entre jeunesse, syndicats, mouvements ouvriers, eh bien, pouvaient se retrouver pour contester le capitalisme, parfois même espérer le renverser. Et donc ces mythologies-là, de droite comme de gauche, elles sont évidemment de nature très différente. Elles ont des parts de vérité, comme toutes les mythologies, mais elles ne sont que partielles. Elles ne voient qu'une partie de l'histoire.
Alors, vous venez d'aborder, effectivement, c'est une période de grands mouvements sociaux, d'un côté, donc, grande prospérité, mais parallèlement aussi, grands mouvements sociaux qui ont amené mai 68. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est déjà mai 68 un peu la fin de cette période ?
Ça dépend ce que vous appelez, encore une fois, les Trente Glorieuses sont découpables entre plusieurs périodes. Évidemment, il ne viendrait aucun historien de comparer la période des années 50, qui est une période de reconstruction et de boom économique, mais dans laquelle les progrès à faire sont encore immenses. Je rappelle qu'il y a 7 millions de personnes qui n'ont pas de logement en 1945, parce que leur logement a été détruit par la Seconde Guerre mondiale. La plupart des infrastructures sont en lambeaux, à cause non seulement des bombardements alliés ou allemands, des destructions des Allemands, mais aussi des destructions volontaires de la résistance. Donc on a un pays totalement à reconstruire. Prenez le cas de nos voisins en Allemagne, c'était bien pire encore. On dit 1945, Allemagne année zéro. Donc là, évidemment, il y a une période qui va durer 10 ou 15 ans dans laquelle, grâce à la planification de l'économie, on va remettre sur pied le pays. Et puis il y a une deuxième période. Cette deuxième période, c'est celle dans laquelle vous avez la première génération qui est née dans un monde de paix, en tout cas en France, dans un monde dans lequel la prospérité est au rendez-vous, dans lequel finalement l'électroménager a déjà fait son entrée, libérant largement le travail des femmes, rappelons-le, qui pesait beaucoup sur les femmes. Et cette génération, elle va adopter ce qu'on appelle en sciences politiques des valeurs post-matérialistes. Qu'est-ce que ça veut dire, des valeurs post-matérialistes ? Ça veut dire qu'elle va commencer à dire, bon, les questions matérielles sont résolues, je vais commencer à réfléchir au-delà, c'est-à-dire qui je suis dans le groupe, dans la nation, qui je suis en tant qu'homme, en tant que femme, dans ma sexualité, dans mon comportement individuel, dans mes préférences, quelles qu'elles soient. Et là, mai 68 est ce moment-là très intéressant parce qu'il est à la fois un moment de contestation de l'ordre établi sur le plan économique et politique, mais il est aussi un moment d'affirmation d'une liberté, que ce soit la liberté des femmes, la liberté des homosexuels, la liberté des minorités régionales qui revendiquent de parler leur langue, etc. Donc vous avez là un moment très important. Donc oui, c'est vrai que, d'une certaine manière, la deuxième partie des ne ressemble pas du tout à la première.
Oui, et là, on a une période qui initie beaucoup d'évolutions qui perdurent maintenant.
Accord à côté sur.
Donc, Michel Murator, nous nous retrouvons pour un alter regard avec Vincent Martigny pour parler. On va parler des temps nouveaux maintenant. On a parlé des temps de Trente Glorieuses, donc maintenant on va parler des temps nouveaux. Donc, vous avez commencé à dire qu'en fait, ça a initié une révolution sexuelle, la libération des femmes. Et donc là, j'ai repris quelques grands thèmes, parce que des thèmes dont on parle vraiment, c'était une société, comme vous avez dit, très ordonnée, et quand on annonce jouir sans entrave, j'imagine que du coup, ça perturbe vraiment le fonctionnement à tout niveau de la société.
Alors, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'évidemment, les Trente Glorieuses ont été une période dans laquelle, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt la deuxième partie des Trente Glorieuses ont été une période de progrès sociaux et de progrès dans la libération des mœurs sans conteste. Le but n'est pas d'ailleurs de se battre contre les Trente Glorieuses. Elle est de dire que cette période, en revanche, et c'est ce qu'essaye de montrer Maya Mazorette, qui ouvre ce livre avec son livre, qui s'appelle « Jouir sans entrave, point d'interrogation », c'est qu'elle montre que finalement, ce que va être la fameuse libération sexuelle dont on nous a tant parlé, c'est surtout la multiplication des possibilités de relations sexuelles entre les hommes et les femmes. Mais la sexualité elle-même ne change pas, c'est-à-dire que les rapports de force à l'intérieur de la sexualité vont rester très fortement au profit des hommes, et la question du consentement des femmes, comme le mouvement MeToo l'a révélé, ne s'est quasiment pas posée à cette période.
Oui, c'est pour ça qu'on dit en fait une évolution de la sexuelle, mais c'est pas de la même manière pour les hommes et les femmes. Les femmes ont encore été dans un ancien schéma.
Et ce qui est très amusant, c'est qu'on a retrouvé toute une série d'archives INA, hein, où on demandait aux hommes qu'est-ce que vous pensez du viol, qu'est-ce que vous pensez des violences conjugales, et vous vous rendez compte, des archives de 70, 72, 73, et vous vous rendez compte que les mentalités sont encore incroyablement rétrogrades sur ces questions. Hein. Les femmes violées l'ont toujours un peu cherché, hein. Les femmes, un mari qui bat sa femme, c'est pas bien, mais bon, ça arrive, et c'est pas à la société de s'en mêler. On a beaucoup évolué sur ces questions de rapport entre les hommes et les femmes, et surtout, il s'est passé entre-temps une décennie, la dernière, dans laquelle la place des femmes, le rapport au genre, s'est totalement redéfini, et donc la conversation entre les hommes et les femmes en a été, me semble-t-il, enrichie, et en tout cas totalement renouvelée, à la fois dans la sexualité, c'est ce que nous dit Maya Mazoret, mais aussi à la suite d'évolutions qui sont des scandales dont on a découvert, par exemple au travers de l'abbé Pierre, que c'était une personnalité qui, avec les femmes, s'était très mal comportée, mais aussi avec les procès de Mazan. Ce sont deux sujets qu'aborde la grande historienne des femmes, Michèle Perrault, hein, que vos auditeurs connaissent peut-être, une immense historienne qui nous a fait le grand privilège, à l'âge de 96 ans, d'écrire un magnifique chapitre sur le droit des femmes. Mais c'est aussi vrai des modèles familiaux qui ont profondément évolué. Un exemple que je donne toujours, c'est que, jusque la fin des années 90, hein, dans les enquêtes sur les valeurs des Français, il y a une question qu'on posait tout le temps, notamment au CEVIPOF, mon laboratoire à Sciences Po, c'était « Est-ce que vous accepteriez d'épouser un ou une divorcée ?» Et cette question n'allait pas de soi jusqu'à la fin des années 90. Rappelez-vous que les femmes divorcées, on les appelait des voleuses de mari. C'était les femmes qui vivaient une forme de marginalité sociale. Être divorcée, c'était être une marginale. Tous ces modèles familiaux ont heureusement bien évolué. Certes, il y a toujours des familles nucléaires, papa, maman, deux enfants, mais beaucoup d'autres types de familles se sont substituées ou plutôt ont enrichi ce modèle. Je pense notamment aux familles recomposées, aux familles monoparentales, aux familles homosexuelles, etc. etc. Et aujourd'hui, à être divorcé, avoir un enfant, rééduquer cet enfant, puis d'autres avec une autre compagne ou un autre compagnon, font partie heureusement de la norme. Et il faut noter à quel point les mentalités, suite notamment sur les questions homosexuelles, suite au mariage pour tous, ont incroyablement progressé dans tous les coins de France et dans tous les coins d'Europe sur des questions dont on pensait qu'elles étaient figées depuis des siècles. Et pourtant, aujourd'hui, cette tolérance augmente.
Alors, vous avez cité Michèle Perrault. Effectivement, elle dit, j'aime beaucoup cette expression, femme esclave, levons-nous. Je disais dans mon introduction qu'il y a la machine à laver le linge, la machine à la vaisselle, mais est-ce que ça, la technique, enfin la machine, ont libéré peut-être les femmes, mais est-ce que il n'y a pas un autre esclavage depuis, puisque les femmes travaillent et se retrouvent là-dessus, on n'a pas beaucoup évolué entre ce qu'on appelle la double journée quand même.
Mais en réalité, ce qui est très intéressant, c'est que les 30 Glorieuses, elles ont mis les femmes au travail, puisqu'il faut se rappeler que le taux d'activité des femmes, jusque dans les années 60-70, était relativement faible. Relativement, hein. C'était moins d'une femme sur deux qui travaillait. Aujourd'hui, c'est 3 femmes sur 4. En réalité, la double journée, elle a été inventée après les 30 Glorieuses. Donc il y a eu une première phase de libération, c'est vrai, parce que des femmes qui avaient la responsabilité de s'occuper de la maison, dont le rôle social était réservé au domicile, eh bien, ces femmes se sont mises, à partir des années 70 et 80 surtout, à travailler massivement, et on peut s'en réjouir. Mais là, évidemment, on s'est rendu compte que le travail de libération n'avait été que technique. On avait apporté des outils pour aller plus vite, un lave-linge plutôt que d'aller battre le linge au lavoir, mais pour autant, on n'avait pas réfléchi à la répartition entre les hommes et les femmes des charges. Et c'est seulement aujourd'hui, en réalité, que ces réflexions s'opèrent. C'est seulement dans la...
Bon, 30 secondes. Non, si, 30 secondes.
Et c'est seulement aujourd'hui où on est en train de réfléchir à cette répartition des rôles. C'est seulement aujourd'hui que les jeunes pères, cette nouvelle génération de pères qui a moins d'une dizaine d'années, hein, considèrent comme tout à fait normal de changer les couches, de s'occuper des enfants, si ce n'est à égalité, en tout cas presque à égalité avec les femmes. La question de l'égalité des tâches matérielles, si vous observez la littérature sur les sujets, les essais qui paraissent sur cette question, il y a une vraie explosion depuis MeToo. Mais c'est MeToo qui a été cette bascule. Et MeToo, je rappelle, c'est il y a moins de 10 ans, c'est il y a 8 ans seulement. Donc la révolution des mœurs, elle est aujourd'hui. En réalité, elle est beaucoup plus considérable aujourd'hui qu'elle ne l'a été il y a 30 ou 40 ans, puisqu'il y a 30 ou 40 ans, comme vous le disiez, c'est une révolution essentiellement technique. Je ne dis pas qu'elle n'a pas joué un rôle important, mais elle est aujourd'hui largement dépassée par ce que nous vivons.
Alors, je voudrais revenir sur deux points. D'une part, le sida et le MLF, parce que ces deux, quand même, événements, j'allais dire, qui ont marqué cette période aussi.
Alors bon, le sida, c'est plus tard.
Je ne mets pas au même niveau.
Mais ouais, non, non, surtout, ce n'est pas comparable. Non, le MLF, c'est intéressant parce que c'est un premier mouvement de mobilisation des femmes. Vous rappeliez le slogan « Levez-vous, femmes esclaves », c'est le slogan du MLF hein, que reprend Michel Perrault dans le titre de son chapitre. Et ce mouvement, il est intéressant parce qu'il montre tout d'un coup que ces femmes, dans ce qu'on a appelé la deuxième vague de féminisme, hein, si la première, c'est le droit de vote, la deuxième, c'est le droit à disposer de son corps et notamment à la contraception, et la troisième vague de féminisme aujourd'hui, c'est celle de choisir, de consentir à la fois à la sexualité, au rapport avec les hommes, à être une femme, telle qu'on le définit maintenant, ce MLF a posé des fondements tout à fait essentiels dans les années 60-70. Mais très vite, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui, en langage médiatique, un backlash, un retour en arrière, qui fait que finalement, ces associations de femmes, et notamment le terme de féminisme, pendant longtemps, a été jugé comme un synonyme d'une emmerdeuse, de quelqu'un de compliqué, quelqu'un qui n'allait pas trouver de mari, quelqu'un qui... voire des choses beaucoup plus insultantes pour les femmes en question. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est en train de redécouvrir finalement l'héritage du MLF, les débats qui avaient été laissés un peu en suspens dans les années 60 et 70, et avec toute une génération de féministes hein, qui aujourd'hui reprennent le flambeau là où les anciennes du MLF l'avaient laissé tomber. Pour le sida, les choses sont un peu différentes parce que le sida est une maladie des années 80-90, donc elle n'a pas grand-chose à voir avec les 30 Glorieuses.
Oui, ça arrive après, quoi. Oui. Mais ça a quand même été un frein dans toute cette révolution sexuelle qui commençait ça commençait à s'ouvrir quand même.
Oui, c'est possible, mais j'ai l'impression que dans le sida a fait peser sur la sexualité plutôt une espèce d'angoisse pour toute une jeune génération qui était ma génération, hein, puisque tout d'un coup la sexualité pouvait dire la mort. Et c'est vrai que ça a créé un rapport probablement moins hédoniste vis-à-vis de la sexualité que ne l'avait la génération des Trente Glorieuses, ça c'est sûr. Mais elle a probablement aussi contribué à reconfigurer ses rapports parce que ça a posé la question de ce que c'est que des maladies, de comment on s'en protège et donc aussi de comment les relations sexuelles devaient être consenties. Moi je me souviens d'une bande dessinée qui montrait comment une jeune fille ayant fait l'amour avec un jeune garçon dans les années 90 eh bien, attrapait le sida parce que le jeune garçon ne l'avait pas prévenu qu'il était lui-même séropositif. Donc c'était des appels aussi au respect du partenaire pour ne pas lui inoculer le virus de la mort. Donc ça, probablement, oui, ça a joué un rôle dans la conscientisation hein, du désir des autres, mais aussi de la responsabilité qu'on porte quand on couche avec quelqu'un.
Alors vous avez déjà un peu abordé l'évolution de la famille, parce que est-ce qu'on peut dire que les 30 Glorieuses et aujourd'hui par exemple, il y a une libéralisation, il y a une acceptation je dirais plus de l'autre, mais est-ce qu'il y a un continuum ou pas ?
Moi je dirais de manière générale que s'il y a plusieurs mutations entre les 30 Glorieuses et maintenant, l'une d'entre elles est une mutation que j'appelle la mutation anthropologique. Il y a eu vraiment une révolution anthropologique, comme l'appelle Françoise Héritier, la grande féministe. C'est-à-dire que, probablement, nous n'avons pas connu une telle évolution des modèles familiaux depuis l'installation de la famille nucléaire à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que ça fait un siècle et demi qu'on n'a pas eu un moment aussi important. Et les 30 Glorieuses n'étaient qu'une étape d'un mouvement qui est en train d'éclater complètement maintenant. Et on voit bien que ça crée des secousses hein, dans le monde social, dans la politique, parce que ça remet en cause des choses qu'on pensait éternelles et surtout naturelles. On est en train de re-réfléchir à la nature et au côté naturel des rapports entre les hommes et les femmes, des modèles familiaux, de la place des hommes et la place des femmes. Et ça, c'est un moment passionnant parce que, justement, il y a un continuum entre les 30 Glorieuses et maintenant, mais il y a surtout une immense accélération de tous ces questionnements dans les 10, 15, 20 dernières années. Et on voit bien que ce travail est encore en cours. C'est probablement la mutation dont on parle dans le livre. On en parle d'autres, on va dire un mot dans un instant. Mais c'est probablement la mutation la plus visible aux yeux de tous.
Alors, c'est aussi une période qui nous a, on va venir au niveau écologique, qui nous a entraîné un petit peu sur la catastrophe écologique que nous connaissons maintenant, avec aucun frein à la consommation, on ne se posait pas du tout les questions. Donc, cette idée de consommer, c'était le progrès.
Absolument, il y avait l'idée que ce qui était le maître étalon du bonheur passait par une phase matérielle. Il fallait accumuler des biens de consommation. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à la fin de son livre, l'inventeur de la formule des Trente Glorieuses nous dit « il y a un problème, c'est que nous avons laissé en cours de route la question de la spiritualité, ce qui s'est passé dans les Trente Glorieuses, c'est une progression matérielle, mais comme cette progression matérielle va de pair avec le déclin des sentiments religieux dans la société, eh bien, finalement, à quoi on aboutit, hein, Jean Fourastier était un chrétien démocrate, donc ça correspondait aussi à sa philosophie personnelle. Mais il avait quand même, je crois, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il disait, voilà, on a oublié, finalement, une forme de spiritualité et une forme de bonheur qui ne passe pas seulement par l'accumulation de biens de consommation. À ce titre-là, la leçon de Fourastier en 79 reste encore valable aujourd'hui. Nous sommes encore engoncés dans un modèle qui fait de l'hyperconsommation, hein, dont la fast fashion, par exemple, c'est-à-dire la production de pièces, de vêtements à coût extrêmement faible, vendu extrêmement faible, mais dont la qualité et surtout dont l'impact environnemental est épouvantable, eh bien, nous restons un peu engoncés dans ce modèle. Et en même temps, contrairement aux Trente Glorieuses, nous sommes confrontés à une prise de conscience totalement nouvelle qui est celle de l'écologie et de l'environnement. Nous savions depuis 78, c'est l'apparition du rapport Meadows, hein, ou même 72, pardon, du rapport Meadows, que nous vivions dans un monde aux ressources limitées, sauf que cette vérité n'avait pas passé la barrière du son de l'opinion publique. Hein. L'opinion publique ne se rendait pas compte, elle vivait dans un monde sans limites, comme le disait une publicité pour un téléphone portable dans les années 90. Imaginez un monde sans limites, eh bien nous vivions dans un monde sans limites. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, même si certains d'entre nous le refusent, c'est que nous vivons dans un monde limité et dans un monde dans lequel notre impact a des conséquences délétères pour l'environnement et que donc nous sommes là dans un, comment dire, dans une contradiction que nous n'arrivons pas pour l'instant à résoudre parce que nous en sommes encore qu'à la prise de conscience que d'un côté nous sommes dans un modèle qui contredit fondamentalement dans sa consommation l'idée d'un monde limité. Et à ce titre-là, on est en train de vivre une transition, là encore une fois, une mutation que moi j'ai appelée la mutation écologique et sociale dans ce livre, c'est-à-dire que l'opinion publique se rend compte, contrairement à ce qu'on imagine, à quel point l'environnement est un sujet important. Je rappelle que cette question, il y a 15 ans, apparaissait très bas des priorités des Français, et aujourd'hui, elle est quand même dans les 4 ou 5 priorités les plus fortes, même si ces priorités fluctuent aussi en fonction des impératifs économiques de la population. Eh bien, cette progression des consciences, elle ne débouche pas encore dans un récit politique, elle ne débouche pas encore dans des actes politiques. C'est-à-dire que vous avez des gens qui font des slogans, le président de la République avait dit « Make the planet great again » il y a 8 ou 9 ans. Bon, on n'en est nulle part en réalité, rien n'a évolué. Il y a eu, il y a quelques semaines ou quelques mois, un sommet sur les océans à Nice, dont vos auditeurs ont forcément entendu parler. Bon, bah, la situation est catastrophique. Tout est à faire dans la politique des océans parce que c'est une politique publique qui débute. Mais c'est intéressant quand même parce que cette prise de conscience, elle est rapide. Elle joue un rôle dans les opinions publiques et pas seulement parmi le petit groupe de gens qui se définissent comme écologistes. Hein. Le sentiment écologique dépasse largement les frontières du parti des écologistes. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
Alors, en fait, le terme anthropocène est quand même assez ancien. Mais il y a toujours ce culte de la consommation, quoi. On n'arrive pas à avoir plus qu'une prise de conscience, parce qu'il faut pas, maintenant ça suffit la prise de conscience, il faut aller plus loin quand même.
C'est la contradiction dans laquelle on est. Alors après, vous savez, moi j'ai coutume de dire que je suis optimiste parce que on ne défait pas en un jour ce qu'on a construit en un siècle. C'est-à-dire que c'est pas les Trente Glorieuses seulement qui a inventé la mythologie de la consommation, ça commence à la fin du 19e siècle. C'est probablement la révolution industrielle qui met en place ce modèle. Et on va dire que les Trente Glorieuses le massif. Donc on ne va pas faire ça. Alors évidemment, le temps nous est compté. Évidemment, on voit bien les effets du dérèglement climatique dans des journées où il fait très chaud, où il fait plus chaud encore que chaque année, nous battons des records de chaleur, dans lesquels, dans des zones comme la Côte d'Azur, par exemple, on voit bien à quel point ce climat tellement fragile et merveilleux pourrait, avec quelques degrés de plus, tourner au cauchemar. Et à ce titre-là, il faudra du temps, non pas pour une prise de conscience, mais pour l'action. Mais nous sommes sur ce chemin-là, et à mon avis, c'est une grande mutation qui joue un rôle. On essaye, mais je ne veux pas trop dévoiler de choses, mais dans le livre, de fournir quelques outils pour pouvoir penser la manière dont pourront avoir une mutation. Mais ce que je veux dire par là, et je crois que c'est l'étape qui est devant nous, pour le dire de manière résumée, c'est que nous ne parviendrons pas à effectuer cette mutation ou à résoudre cette contradiction entre croissance et environnement tant que nous n'aurons pas donné à voir une société qui aurait réussi sa transition environnementale. En d'autres termes, tant que nous ne dirons pas aux gens « voilà la société ». Dans lequel nous vivrons lorsque nous aurons une transition environnementale réussie. Et cette société ne sera pas seulement une société de privation, elle sera une société qui produira une nouvelle prospérité. À ce moment-là, cette société deviendra désirable et il y aura une accélération. C'est le trajet que nous avons à faire dans les prochaines années.
Eh bien, vous avez tout à fait introduit ma troisième partie, donc on se retrouve après un petit peu de musique.
Accord à côté sur...
Pour un alter regard avec Vincent Martini qui nous parle des 30 glorieuses, mais surtout de demain. C'est ça qui me paraît plus intéressant. Alors, cette troisième partie, moi je l'ai appelée une certaine idée de la France. C'est-à-dire qu'on a commencé pendant cette période-là à avoir une certaine idée de la France. Je crois qu'avant on ne se posait pas de questions, on était français, on travaillait. Voilà, il y a des esclaves presque, voilà. Et là on a commencé à quand même à avoir une certaine idée de ce que de la France, de sa, de, au niveau écologique, au niveau politique, de toutes ces évolutions. Mais là encore, est-ce qu'on n'idéalise pas un peu ?
Idéaliser quoi ? Pardon.
Ben, la vue que l'on a de cette période et de tout ce qu'elle a entraîné.
Alors la formule, une certaine idée de la France, comme vous le savez, c'est la formule du général de Gaulle qui revendiquait une certaine idée de la France. Alors, je pense que la formule est une formule incroyablement habile, parce qu'elle permettrait de montrer la singularité du personnage de Gaulle, si ce n'est du gaullisme lui-même, plus probablement que la singularité d'une société qui, à l'époque, est beaucoup plus fragmentée que ce qu'on imagine aujourd'hui. S'il y a une idéalisation, c'est qu'on pense que la société était très homogène, très cohérente, mais elle n'était pas tant que ça. D'abord, il y avait d'énormes dissensions sur le plan culturel entre les différentes régions de France. Être né à Nice ou en Bretagne, c'était quasiment vivre sur deux planètes différentes en 1970 ou en 1960. Rappelez-vous ces récits très nombreux de gens qui vous disent « Mais moi, je suis né en 1945 dans une, en Bretagne, dans une ville où c'était dans une maison en terre battue, dans laquelle, voilà, et ça ne ressemblait pas du tout à la vie à Nice. » Deuxièmement, nous avons une vision idéalisée de l'homogénéité sociale. Il y avait d'incroyables différences culturelles. Je rappelle que les bidonvilles de Nanterre s'arrêtent au début des années 80, c'est-à-dire là où on entassait non seulement des immigrés, mais aussi des prolétaires, c'est-à-dire des membres de la classe ouvrière.
C'était tout l'exode rural aussi.
C'est une année d'exode, c'est une période d'exode rural, donc c'est une période dans laquelle on imagine aussi une France qui communierait autour des valeurs rurales. C'est pas vrai, ça c'est la première moitié du XXe siècle. En réalité, c'était une France en plein mouvement. Donc je dirais probablement, pour prendre un peu le contre-pied de cette idée de la France, qu'aujourd'hui nous avons une idée de la France bien plus cohérente et bien plus précise que nous ne l'avions pendant les Trente Glorieuses. À ce titre-là, vous avez peut-être entendu parler de ce livre qui s'appelle « L'archipel français » de Jérôme Fourquet, qui est un camarade, mais avec lequel je diffère. En termes d'analyse, lui pense qu'il y avait une sorte de cohésion liée aux valeurs familiales traditionnelles qui unissaient les Français entre eux. Je ne nie pas ce diagnostic, mais je dis que et lui pense qu'aujourd'hui il y a une sorte d'archipélisation, les gens sont séparés les uns des autres et seraient unis par une sorte de mentalité de guerre civile, prêts à se jeter les uns contre les autres. Je conteste cette analyse, je pense au contraire, et nous pensons dans ce livre que c'est tout à fait l'inverse, comme le dit Laurent Berger, qui est un des contributeurs de ce livre, l'ancien patron de la CFDT. Au contraire, lorsqu'on traverse la France, on réalise que les gens n'ont jamais été aussi près les uns des autres. La confiance interpersonnelle n'a jamais été aussi élevée. C'est-à-dire que lorsque vous regardez l'enquête du CVPOF sur la confiance, hein, une enquête de valeur, eh bien, plus de 90% des gens font confiance à leur famille, à leurs amis, à leurs voisins, y compris même à des gens qu'ils ne connaissent pas ou des gens d'une autre religion. Ce niveau de confiance, il existait dans les Trente Glorieuses lorsqu'on vivait dans des villages où tout le monde se connaissait et où tout le monde se surveillait. Mais en revanche, elle était beaucoup moins grande dans les grandes villes. Je rappelle les phénomènes des blousons noirs qui faisaient peur à tout le monde, hein, et ces jeunes gens avec des couteau. Hein. Rappelez-vous Starmania, cette comédie musicale de Luc Plamondon et Berger, hein, où on disait quand on arrive en ville, hein, on va peut-être violer des filles avec des couteaux, des poignards, etc. Évidemment, je ne dis pas que ce monde a disparu, l'imaginaire de la banlieue reste un imaginaire inquiétant pour beaucoup de Français, mais pour autant, les actes de violence réel, le nombre d'homicides, le nombre de viols, s'est effondré depuis 50 ans. À ce titre-là, nous vivons dans une société plus pacifique, plus cohérente, avec une cohésion d'une autre nature, parce qu'elle est fondée sur des individus beaucoup plus forts, mais que pendant les Trente Glorieuses, où c'était pour surtout des groupes qui fondaient des formes de cohésion dans une société qui était en bouillonnement.
Alors, pourtant, on a l'impression aujourd'hui que c'est la peur de l'autre, de l'inconnu, du migrant, de la délinquance qui domine. Il y a quand même un discours dominant là qui, en fait, n'est pas réel ou qui est un peu aussi fantasmé dans le mauvais sens.
Oui, vous avez raison, il est en partie réel, bien sûr, parce que nous vivons dans des sociétés plus complexes qu'auparavant, dans lesquelles il y a de la violence aussi. Il y a des incivilités très grandes, il y a parfois de la délinquance.
Bon.
Une société dans laquelle il y a parfois de la délinquance, hein, où il y a des actes, des crimes, des délits, etc. Le but n'est pas de... Nous ne vivons pas dans une société parfaite, si c'est la question qui est posée. Pour autant, je pense que la grande différence entre les Trente Glorieuses et aujourd'hui, c'est que les Trente Glorieuses n'avaient aucun micro à tendre aux gens pour qu'ils se plaignent. Les réseaux sociaux n'existaient pas, les journaux locaux se préoccupaient assez peu de ce que pensaient les gens, et l'information était du haut vers le bas. Hein. Elle venait de Paris ou des grands centres urbains, et elle irradiait, elle ruisselait, si je peux me permettre l'expression qui a été popularisée par Emmanuel Macron, sur le reste de la population. D'une certaine manière, nous avons beaucoup plus de pouvoir citoyen aujourd'hui, y compris pour nous plaindre, hein, et à ce titre-là, y compris pour faire connaître des réalités. Je vous donne un exemple tout bête. On sait que dans la société française, l'inceste a été un drame, et qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui est un fait structurel des sociétés occidentales, et la société française, comme les autres, connaît, comme toutes les sociétés humaines même, une dose d'inceste tout à fait considérable. Hein. Récemment, une enquête a révélé que l'inceste concernait une personne sur 10 en France, qui paraît tout à fait incroyablement et horriblement spectaculaire comme chiffre. Dans les Trente Glorieuses, rien n'indique que les situations étaient différentes. D'ailleurs, nous découvrons jour après jour des gens qui vous expliquent à 50, 60 ans qu'ils ont été violés par un membre de leur famille, bon, si ce n'est pas par leurs propres parents. À ce titre-là, est-ce que nous vivons dans une société où il y a plus d'inceste qu'avant ? Non. Non, parce que la mise à l'agenda des récits de ces gens qui racontent leur malheur a permis au pouvoir public de s'en emparer. Et aujourd'hui, il y a des politiques de prévention de l'inceste, des politiques de signalement. Et cette situation qui contrevenait à l'époque au secret qui régnait dans les familles. On ne parlait pas dans les familles, on ne parlait pas aux autres familles, en tout cas de leur vie privée. Hein, il y avait un rapport beaucoup plus autarcique à la vie familiale. Eh bien, aujourd'hui, de nouvelles réalités montrent au contraire que nous pouvons combattre des situations d'insécurité. Et je rappelle encore une fois, hein, parce qu'il faut toujours le rappeler, que la principale cause de violence, à la fois sur les femmes et sur les enfants, elle vient de l'intérieur de la famille. Hein. Vous risquez beaucoup moins dans votre vie, statistiquement, en allant dans la rue, n'importe où, même dans les pires quartiers, que ce que vous pouvez risquer de la part de vos proches en termes de violence, surtout si vous êtes une femme, surtout si vous êtes un enfant. Donc, s'il y a insécurité, hein, et on a raison de le rappeler, il y a des formes d'insécurité gravissimes dans notre société, eh ben, elles sont travaillées à l'intérieur de la famille, et là, il faut espérer donner au pouvoir public les moyens, justement, de conscientiser les gens, de régler les problèmes en interne, et l'insécurité collective, elle, a largement baissé. Hein, par rapport à la période des Trente Glorieuses, je rappelle, le nombre d'homicides, le nombre d'agressions sexuelles, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, je vais le dire sur une formule qui est ce qu'elle est, le viol sur le terrain vague, c'était quelque chose qui pouvait arriver il y a 30 ou 40 ans, mais qui aujourd'hui demeure très très marginal. Aujourd'hui, les gens qui violent sont des gens que vous connaissez.
Oui, on a tous les travaux de Michieli qui démontrent justement tout ça. Mais je me demandais aussi si c'était pas lié, aujourd'hui, on est beaucoup moins tolérant par rapport à tout ce qui nous entoure pendant cette période-là.
Bah, ça dépend, en fait, puisque la tolérance est beaucoup plus grande, je l'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis des modes de vie individuels. Nous sommes tous des super individus, que soyons de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'individu comme la source de toute condition pour l'autonomie. Hein, l'autonomie individuelle, c'est la clé de voûte de la société. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis assez rétif au discours qui regrette l'individualisme, parce que l'individu, il se trouve que pour le meilleur et pour le pire, c'est aujourd'hui la condition sine qua non du bonheur social. Hein, notre réussite individuelle, hein, notre épanouissement individuel. À ce titre-là, y a une tolérance beaucoup plus grande pour les comportements individuels. Pour les gens qui ne mangeraient pas de viande, qui ne veulent pas boire d'alcool, pour les gens qui aiment les garçons ou les filles, ou qui veulent même changer de sexe, ce qui reste quand même encore un tabou plus ou moins important dans la société, mais qui était complètement inaudible il y a encore 10 ou 15 ans. Donc sur ces éléments-là, nous progressons. Sur la question des valeurs, hein, les travaux de Vincent Tibéri, hein, qui est professeur à Sciences Po Bordeaux, a montré en réalité que la société dans son ensemble, sur le rapport à l'autre, à l'étranger, globalement progresse aussi en tolérance. En revanche, ce qui traverse la société française de manière très forte, c'est un désir d'ordre. Ça, on le constate depuis maintenant une vingtaine d'années, dans toutes les enquêtes politiques, c'est-à-dire, il y a une volonté que l'ordre soit garanti dans les rues, il y a une confiance très importante dans la police, les deux demande de plus de police, de plus d'armée, hein, de tout ce qui caractérise l'ordre. Mais vous savez, moi je le vois aussi probablement parce que nous vivons une telle période de transformation et de mutation, comme je le disais tout à l'heure, anthropologique, écologique et sociale. On n'a pas encore parlé des mutations culturelles, mais nos sociétés deviennent de plus en plus inclusives, on en dira un mot tout à l'heure peut-être. Et donc, les gens, les citoyens se rattachent à des conditions de l'ordre qui les rassurent et on ne peut pas leur en vouloir.
Alors justement, mon thème suivant, c'était la culture. C'était une grande période de démocratie culturelle. On a Jean Villard, on a les maisons de la culture. Et donc, on rêve encore maintenant de Malraux et de Jacques Lang quand on parle d'un ministre. Donc, est-ce que là aussi, il y a un impact aussi important que dans nos rêves, je dirais ?
Alors, les Trente Glorieuses n'ont pas été vraiment la période où la culture a joué un si grand rôle. Ou plutôt, je dirais les choses différemment. Non, je vais recommencer cette question. On va la couper. Je dis à votre technicienne, on coupe juste ce que je viens de dire. La période des Trente Glorieuses a été une période essentielle pour la culture dans la société. D'abord parce que vous avez l'émergence de toute une nouvelle série d'artistes et de créateurs dans le théâtre, dans les arts plastiques, qui est une période d'effervescence. Mais parce que c'est une période de croissance économique et sociale. Donc à ce titre-là, il y a aussi plus d'espace pour les artistes pour créer, pour inventer. Il y a des avant-gardes merveilleuses dans les Trente Glorieuses. Mais en réalité, ce qui est paradoxal, c'est que André Malraux, qui a été un ministre important parce qu'il a fondé le ministère de la Culture, mais il n'a pas fait grand-chose d'autre. C'était déjà pas si mal, on ne va pas lui en vouloir. Mais il avait je rappellerai peut-être des éléments biographiques d'André Malraux, mais enfin, rappelons-nous qu'André Malraux était quand même cocaïnomane, alcoolique, il avait perdu ses deux enfants dans un accident de voiture. C'est quelqu'un qui a vécu cette période, qui était par ailleurs un grand artiste, mais qui avait des visions, qui n'était pas un grand gestionnaire. Il faut attendre finalement Jack Lang, les années 80 et 90, pour voir la politique culturelle vraiment fleurir dans ce pays. Mais ce que je trouve intéressant lorsque vous parlez de culture, c'est que la culture a deux sens. Il y a la culture comme la vie de l'esprit, la vie artistique, hein, celle-là, bon, elle a une vie qui échappe aux politiques de toute manière. Hein. Il y a des périodes qui sont des périodes de foisonnement culturel et des périodes qui le sont un peu moins. Bon. Mais la culture, ça veut aussi dire un certain type de mode de vie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de la fin des années 70, début des années 80, va s'ouvrir une période dans laquelle on va réfléchir à la nature de ce qu'est la France. Et le rapport à la culture française. Et là, c'est pas pendant les Trente Glorieuses que ça va se jouer, mais plutôt dans les années 80, c'est-à-dire dans les années 80, un récit nouveau va essayer d'intégrer des nouveaux venus hein, dans la culture française. C'est la suite de la Marche des Beurs en 1981, c'est la création de SOS Racisme en 1986, c'est toute une réflexion sur les minorités régionales, c'est-à-dire les Basques, les Bretons, les Nissards, avec leur langue, leurs coutumes, où le vieux jacobinisme va laisser la place à une forme de tolérance aussi plus grande pour les modes de vie différents, mais aussi en direction, pour finir là-dessus, sur les minorités qu'on appelle nationales, les Juifs, les Tziganes, mais, ou alors les Arméniens, qui sont des communautés qui étaient à peine tolérées, invisibilisées, et qui vont, dans les années 80 plutôt que 70, eh bien, connaître une nouvelle visibilité, connaître un nouvel essor, et qui vont montrer la France comme une mosaïque dans laquelle on peut tout à fait vivre ensemble en étant différent. D'ailleurs, le mot d'ordre des socialistes à l'époque, c'était le droit à la différence. Et donc ce mot d'ordre, qui a été malheureusement un peu oublié parfois, parce que nous vivons dans une société dans laquelle ce mot d'ordre a toute sa réalité et toute sa contemporanéité. Le droit à la différence, on a, dans une société d'individus, c'est une revendication, une tolérance dont les frontières ne sont marquées que par le respect de l'ordre public. C'est-à-dire, on a le droit d'être différent à partir du moment où vous ne m'empêchez pas d'être ce que je veux être.
Oui, mais ce qui m'étonne quand même sur la culture, c'est qu'on continue à parler de démocratie culturelle. Moi, j'ai eu en main les lettres de mission de tous les ministres depuis un certain temps. Dans tous, il y a objectif la démocratie culturelle. Et ça ne vient pas, et du coup, ça ne s'impose pas.
C'est vraiment... Deux choses, parce que ce qui ne vient pas, c'est la démocratisation culturelle. C'est-à-dire l'idée que la culture ne devrait pas rester l'apanage d'un petit groupe d'individus, mais être ouverte à tous. Alors, il y a eu quand même... Il y a eu des fêtes comme la fête de la musique qui montrent aussi des moments de démocratisation, mais finalement on sait que 40 ans après la publication du premier rapport sur les pratiques culturelles des Français, la pratique culturelle, je pense notamment au théâtre, au cinéma, etc. sont des, ou à la musique, au concert, sans parler de la musique classique, sont des pratiques plutôt élitistes, même si aujourd'hui on constate là encore une fois, singularité de notre époque, que sur la question du cinéma ou de l'écoute de la musique en ligne, nous assistons à une immense démocratisation. Et là, j'en viens à votre terme de démocratie culturelle, qui est un peu un autre terme. Démocratisation, c'est l'élargissement. Ça, les résultats sont mitigés. La démocratie, c'est l'idée que chacun, avec ses goûts, avec ses visions culturelles, a le droit à un respect égal. Il y avait un philosophe, un essayiste dans les années 80, qui détestait cette idée-là. Il s'appelait Alain Finkielkraut. Il avait dit « une paire de bottes vaut Shakespeare ». Ça veut dire, en gros, n'importe quel... Serge Gainsbourg ou Bob Marley, ce serait la même chose que Shakespeare ou Mozart. Lui s'en indignait parce qu'il était attaché à une conception très hiérarchique de la culture. En haut, vous avez Mozart, Molière, Shakespeare, et puis vous descendez vers la culture populaire, et cette culture populaire est forcément de moins bonne qualité. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout comme ça. Les enquêtes du ministère de la Culture montrent que les Français considèrent que on peut aimer Mozart ou Bob Marley, ou Serge Gainsbourg, ou Brassens, ou Shakespeare, que ça correspond à des moments de notre vie ou de notre journée, qu'à ce titre-là, chacun correspond à une part de dignité et de plaisir égal, hein, et qu'à ce titre-là, sans tomber dans le seul divertissement, nous devons être des omnivores culturels. Hein, et à ce titre-là, je crois que là, c'est la période des 20 dernières années qui a plutôt changé les choses que celle des années 70 ou 60.
Alors le travail, parce que en fait, bon, il y a, pendant les Trente Glorieuses, on travaillait. J'ai l'impression qu'on se posait pas trop de questions d'ailleurs. Et bon, ensuite, il y a eu un asservissement pratiquement au travail. Et le Covid a quand même beaucoup changé. Donc, est-ce qu'on peut dire que finalement, l'épidémie de Covid a eu plus d'impact sur l'organisation du travail, l'approche du travail par les individus que toute cette période-là? Alors, j'irai pas de plein emploi, c'était une période de plein emploi.
Alors j'irai pas jusque-là quand même, parce que les Trente Glorieuses, elles ont permis d'améliorer un certain nombre de droits des travailleurs, hein, grâce notamment aux mouvements syndicaux et aux mouvements politiques. Hein, mai 68, c'est quand même l'augmentation des salaires, c'est la semaine de 39 heures, de 40 heures, pardon, c'est l'encadrement quand même de toute une série de droits à la représentation syndicale, une liste de droits très importante. Le Covid, il n'a pas été un changement, il a été un accélérateur de tendance qui existe depuis une vingtaine d'années. C'est le chapitre de Laurent Berger sur le travail, justement, intitulé « Travail, mode d'emploi ». Et qu'est-ce que nous dit Laurent Berger ? Il dit finalement qu'un sujet dont on ne se préoccupait pas du tout dans les Trente Glorieuses, c'était les conditions de travail. Il y avait des accidents du travail absolument énormes, il y avait des gens qui mouraient au travail, et on considérait qu'après tout, ça faisait partie malheureusement d'une omelette dont on était obligé de faire en cassant des œufs, et si les œufs étaient les travailleurs, eh bien c'était égal. Aujourd'hui, il est vrai que les jeunes générations accordent une importance tout à fait différente au travail, non pas qu'elles veuillent moins travailler, mais elles veulent travailler en respectant aussi l'équilibre entre leur vie privée et leur vie familiale. Elles souhaitent aussi être très attentives à l'impact environnemental de leur travail, à l'importance que ça peut avoir sur l'impact social, et donc il y a une recherche de sens, une quête de sens qui n'existait pas probablement dans les Trente Glorieuses. Et à ce titre-là, je crois que il y a une vraie transformation de notre rapport au travail, même si beaucoup reste à faire sur la démocratie au travail, sur la façon dont justement les syndicats qui sont en faiblesse aujourd'hui, ne trouvent pas d'autres instances qui peuvent les remplacer pour permettre à chaque travailleur d'avoir dans son domaine une voix, hormis dans les grandes branches industrielles où il y a une représentation là qui est très organisée. Mais si vous prenez par exemple les professions libérales, la voix des travailleurs est quasiment inexistante. Si vous prenez les travailleurs indépendants, c'est la même chose. Et on est de plus en plus dans une société de travailleurs indépendants. Donc là, Laurent Berger, là, je ne voudrais pas tout déflorer, mais dresse non seulement un panorama, mais essaye de nous expliquer qu'est-ce qui reste à faire dans les prochaines années pour rendre un travail qui soit plus démocratique et qui reste ce qu'il est déjà actuellement, c'est-à-dire une source d'épanouissement. On a tort, et ça vient aussi des Trente Glorieuses, de penser le travail uniquement comme un instrument de torture. En réalité, de plus en plus, aussi parce que les travaux les plus difficiles ont tendance à décliner, sont faits par des machines. Aujourd'hui, il y a de moins en moins, quasiment plus de mineurs, et d'une certaine manière, c'est heureux, parce que c'est des gens qui mouraient au travail très, très souvent. Vous avez un travail qui représente pour beaucoup d'individus, si ce n'est une raison de vivre, en tout cas, plus qu'une façon de vivre. Ça représente aussi, on y met beaucoup d'aspirations personnelles, beaucoup de sentiments d'accomplissement, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, en réalité.
Alors, pour terminer, je voudrais venir sur la démocratie. Vous dites que la démocratie fonctionne mal, il y a une déresponsabilisation du citoyen. Est-ce qu'il nous a traduit par, du coup, une abstention? Et comment, est-ce que c'est la suite des Trente Glorieuses qui a ce désintérêt ou pas désintérêt, c'est pas le bon mot d'ailleurs.
Non, moi, ce que j'essaie d'expliquer dans le chapitre conclusif, qui est aussi le chapitre que j'ai rédigé, qui s'appelle « L'homme providentiel contre la démocratie », qui est un chapitre qui s'engage contre la verticalité démocratique et l'obsession de la présidence de la République et d'avoir un sauveur qui, tous les 5 ans, vienne nous tirer des mauvais pas dans lesquels nous nous trouvons collectivement, c'est une réflexion justement sur la manière dont le récit politique n'a pas suivi les évolutions de la société. En d'autres termes, nous vivons encore dans des institutions et dans une façon de faire de la politique qui correspondait bien aux Trente Glorieuses. Cette société hiérarchisée, hiérarchique, où les grands repères étaient clairs, il y avait une gauche, il y avait une droite, les hommes, les femmes, le travail, les travailleurs, les patrons, etc., etc. Et nous vivons dans un sentiment de crise. Parce qu'on a l'impression qu'on ne retrouve plus nos petits. Les forces politiques se sont effondrées les unes après les autres. La confiance dans le fonctionnement, le bon fonctionnement de la démocratie a diminué. Les gens aiment toujours autant la démocratie, pensent que c'est quand même le moins mauvais des régimes, mais ils trouvent qu'elle fonctionne mal. Le sentiment que les hommes politiques sont trop loin de nous, tout ça montre finalement que le récit politique n'arrive pas à suivre les mutations dont je viens de décrire les mécanismes. Nous avons toutes ces mutations. Il ne faut pas oublier la mutation technologique. L'intelligence artificielle va révolutionner notre vie. Les gens ne se rendent pas encore compte à quel point nous allons demain avoir peut-être une intervention chirurgicale sur deux qui sera faite, assistée par un robot. Et à ce titre-là, tout cela va changer notre vie, va, je crois, aussi beaucoup l'améliorer, même s'il ne faut pas être que optimiste, il faut être prudent, parce que l'intelligence artificielle et la technologie peut être aussi un outil de surveillance. Mais en tout cas, nous avons là des mutations fondamentales qui ne sont pas suivies par un récit politique modernisé. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est justement de dire les attentes démocratiques, les attentes horizontales des citoyens, les attentes de participation et de prise en compte n'ont jamais été aussi importantes parce que nous sommes des générations plus éduquées, nous sommes un peuple plus informé, nous sommes un peuple qui a voix au chapitre et qui souhaite avoir encore plus voix au chapitre qu'auparavant. Et nous avons là des institutions, une façon de faire de la politique complètement à l'ancienne. Et à quoi on assiste ? Là, on assiste à un désintérêt, une apathie démocratique, voire même parfois à une colère qui s'exprime contre un système qui marche mal.
On essaye de remplacer par la démocratie directe, mais là on a été chaudé par les conventions, parce qu'il ne suffit pas de faire une convention, il faut aussi en tirer quelque chose pour les citoyens.
Alors oui, je ne suis pas sûr qu'il faut opposer la démocratie participative ou directe et la démocratie représentative. Nous vivons une crise de la démocratie représentative, ça c'est vrai, c'est-à-dire une remise en cause de la légitimité des élus à nous représenter. Aussi, on considère que ces élus ont trop de pouvoir pendant trop longtemps, sans contestation, le temps de leur mandat. Il faudrait probablement mettre en place ce que Pierre Rosanvallon appelle une démocratie continue, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle on ne se contenterait pas d'élire des gens sans les surveiller. Voilà. Ça existe, vous savez, on a ce qu'on appelle le mandat révocatoire en Californie, c'est pas un pays du tiers-monde, en Californie, si une partie des citoyens considère qu'un élu ne fait pas son travail, on a le droit de le révoquer. Bien, peut-être que ce sont ce genre de choses dont on peut s'inspirer. Il y a mille sujets sur lesquels on peut réfléchir dans nos institutions, notamment les répartitions de compétences entre le président de la République et le Premier ministre, mais aussi le pouvoir donné au Parlement, mais aussi le type de loi proportionnelle ou majoritaire auquel le Premier ministre François Bayrou est attaché. On va voir s'il arrive à son terme, mais aussi sur les rapports entre l'État central et les territoires, voyez, et entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Pour tout cela, comme dans toute démocratie, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un outil qui va nous permettre de nous sauver. Mais en revanche, l'appel de ce livre est aussi un appel à la responsabilité des citoyens. C'est que nous devons nous-mêmes réfléchir à notre manière de pouvoir influencer ce système. Nous ne sommes pas des sujets ou des objets, pardon, de la discussion politique. Nous sommes des sujets, mais pas des sujets au sens de la monarchie. Des sujets qui décidons. Le peuple souverain, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que individuellement, mais aussi lorsque nous formons des collectifs, collectifs d'auditeurs, collectifs de votre radio, collectifs de citoyens engagés dans les associations, collectifs de gens qui militent ou pas dans des partis, eh bien, toutes ces formes de collectifs ont un impact. Et à ce titre-là, nous devons jouer notre rôle et nous ne devons surtout pas abandonner notre responsabilité démocratique dans la main des hommes politiques. Parce que tout simplement, même l'homme politique le mieux intentionné, il n'est pas omniscient. Il a besoin de notre aide, mais il a aussi besoin de notre surveillance. Il a besoin qu'on lui demande des comptes. Il a besoin qu'on puisse le critiquer, mais aussi le soutenir en fonction des moments qu'il traverse. Et il faut faire attention à pas non plus... je ne suis pas un anti-politique, moi. Je pense que la solution ne viendra pas d'une société qui s'auto-gérerait. Nous aurons toujours besoin de responsables qui, à notre place, prennent des décisions. Simplement, notre rôle à nous, dans la relation que nous tissons avec eux, c'est là où on pourra réintroduire de la responsabilité. Aujourd'hui, le système nous déresponsabilise, eh bien, à nous de demander un changement pour que ce système nous inclue beaucoup plus que ce qu'il fait aujourd'hui.
Moi, j'ai l'impression que tout le monde réclame une 6e République, mais c'est un peu un leurre si on ne met pas en route tout ce que vous venez de dire, quoi.
Ben là encore, c'est qu'il y a un fantasme qu'il suffirait de changer les règles de la politique pour que tout s'auto-organise. Mais vous savez, c'est un peu le même fantasme que ceux qui disent « le marché gérera tout seul ». Il n'y a pas besoin de... il faut un peu l'encadrer quand même pour éviter les plus gros excès, mais ça va s'auto-réguler. Vous savez, sans la participation des citoyens, rien ne se fera. Et notre livre est optimiste parce qu'il dit que sur les grandes mutations qu'on a identifiées, anthropologiques, écologiques et sociales, culturelles, technologiques, les citoyens... la société sont déjà en train de travailler. Et ils travaillent depuis longtemps. Ils travaillent et nous avançons. Et nous sommes un pays beaucoup plus moderne que nous l'étions pendant les Trente Glorieuses. Simplement, ce qui doit suivre, finalement, c'est le récit politique que collectivement nous mettons en place. Parce que le revers de l'individualité, c'est que nous nous sentons parfois isolés, désemparés face au changement du monde, parfois aussi sidérés devant les crises internationales, quand nous ne sommes pas parfaitement écrasés par l'anxiété écologique. Tous ces éléments, la sidération, l'anxiété écologique, à mon avis, sont des erreurs. L'anxiété écologique parlait d'un bon sentiment, elle voulait faire prendre conscience aux gens de l'urgence de la situation. Elle a eu un effet délétère, c'est qu'elle nous a, un, culpabilisés, et aussi, elle nous a donné le sentiment que nous ne pouvons rien faire. Et à ce titre-là, c'est le découragement qui domine. Je pense qu'il faut totalement changer les choses, il faut arrêter de culpabiliser les individus, il faut se concentrer sur le collectif. Si nous voulons réduire l'impact carbone de notre société, c'est pas seulement en faisant des gestes éco-responsables, qui sont nécessaires, c'est en s'occupant des structures collectives qui produisent du carbone. l'agriculture, l'industrie, les transports, tout ça dépend de nous tous, pas seulement de nous comme individus, mais aussi des entreprises. Il faut forcer les entreprises à être des entreprises citoyennes. Et qui peut le faire, si ce n'est les politiques? Et si ce n'est nous, à travers les politiques, le peuple souverain. Hein, et c'est, mon avis, ce sujet-là qui est essentiel pour aussi redonner l'idée que dans une société peut-être plus chaude, parce qu'il y a des dégâts qui seront irrémédiables, dans une société qui aura un avenir, parce que s'il y a un truc qu'on peut regretter des Trente Glorieuses, c'est que dans les Trente Glorieuses, on avait confiance dans le futur, dans l'avenir. On disait l'an 2000, ce sera merveilleux. Bon. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une crise du futur. C'est ça que nous appelons à déjouer, cette crise du futur, en essayant de réinventer un récit collectif d'avenir et se dire que quoi qu'il arrive, comme le dit Étienne Klein, qui signe le chapitre sur le futur, vous savez, quoi qu'il arrive, le futur adviendra. À nous de nous emparer de ce futur pour ne pas le subir.
Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Alors, on rappelle le livre « Les temps nouveaux, en finir avec la nostalgie des Trente Glorieuses ». Vous avez d'autres ressources à citer ?
Non, mais c'est paru aux éditions du Seuil, il faut le dire. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies en ce moment. Et n'hésitez pas à l'acheter et à nous contacter ensuite pour en parler avec grand plaisir.
Nous retrouvons le mois prochain pour un autre Alter Regard.